Salut les joueurs et salut les joueuses, nous sommes toujours le 29 janvier 2015 et vous écoutez le 63e épisode de Proxy Jeux. Et un grand merci à Yann Ménez, Jérémy, Ludurny, Alex Autroy, Vincent Vido, Vincent, Ludy Bouquet, Bab, Canevan, Vincent, Elfoudou. Salut les joueurs et salut les joueuses, nous sommes le 29 janvier 2015 et vous écoutez le 63e épisode de Proxy Jeux. Je suis Olivier et ce soir je suis en compagnie de Frédéric, de Jérémy.
Bonsoir Olivier.
Et de Ève.
Salut.
Bonsoir Ève.
Bonsoir Ève, Olivier.
Ève.
Quelle meilleure introduction.
N'est-ce pas? Je vous conseille d'écouter le bêtisier de...
Vous comprendrez pourquoi il dort sur le canapé ce soir.
Donc, c'est le troisième épisode, il est 23h47, on n'a pas encore beaucoup bu, et vous allez écouter 1h50 minutes, 55 minutes de Do It Yourself.
1h55
Non, 55 minutes.
Sur la découpe laser.
Il l'a bien dit comme ça. Hein.
Sur la découpe laser.
Sur la découpe laser.
Ça fait rêver.
Sans Star Wars Inside.
Voilà. Eh bien,
bon courage. À tout à l'heure.
Bonjour les makers et bonjour les makeuses et bonjour Guilin.
Salut Alexis et salut les makers et les makeuses et salut Baptiste ce soir.
Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Alexis, bonsoir Guilin et bonsoir tout le monde.
Donc ce soir on a une rubrique hardcore techno, ça va nous faire du bien un petit peu et donc on accueille pour ça Baptiste qui va nous parler de découpe laser. Allez vas-y.
Exactement. Voilà, bah en fait j'ai été invité parce que j'ai... publié sur mon blog il n'y a pas longtemps le dernier épisode d'une saga, parce que ça a duré presque un an, sur la réalisation d'une boîte de rangement pour le jeu Netrunner, que j'ai réalisé donc en découpe laser au Fab Lab à côté de chez moi. Donc l'idée en fait au départ c'était que j'aime beaucoup Netrunner, j'ai pas joué beaucoup, mais le principe me plaît beaucoup. Et le problème, c'est que la boîte est énorme et que quand on l'ouvre, il y a plus ou moins rien dedans. Il y a quelques jetons, deux paquets de cartes et puis c'est tout. Et un très grand coffrage en carton pour éviter que ça bouge. Mais bon, la boîte est très encombrante pour rien. Et on a tous le même problème d'encombrement dans les étagères. Donc l'idée, c'était un peu de refaire une boîte pour ranger le jeu. Et par-dessus ça, mon autre idée a été que le problème que j'ai à Netrunner, c'est qu'en fait, on choisit son runner et sa corpo, on mélange avec le deck de base pour faire son deck, on joue, quand on a fini de jouer, on range, et puis la fois suivante où on ressort la boîte, il faut trier les cartes, et du coup, on reprend le même runner, le même corpo, on refait une partie, et on s'embête pas. Et en fait, on joue toujours les mêmes cartes. Donc l'idée derrière ça, c'était de faire une boîte de rangement qui force à trier, parce que sinon, ça rentre pas. Donc j'ai dessiné une boîte, en fait, donc une boîte de cartes standard, mais avec des cloisons pour séparer les différents decks de cartes. Donc, je sais pas si vous y jouez
Moi j'y ai
beaucoup.
Joué, d'ailleurs il y a plein de jetons qui sont de formes différentes et tout. Donc
voilà, il y a beaucoup de jetons, ça fait un petit tas sur la table, on sait jamais trop après quoi... quand on a besoin de trouver les jetons, on trouve jamais les bons, etc. Enfin, donc je voulais.
Moi, j'ai pas joué, mais je vois les photos, donc je vois tout à fait le genre de truc, le genre de problème que ça peut poser. Ouais.
Voilà. Donc l'idée, c'était de tout mesurer en fait et d'essayer de faire rentrer ça dans le moins d'encombrement possible. Et comme il y a une partie carte, une partie jeton, je suis parti sur l'idée d'un bento. Donc, le bento, c'est les boîtes repas japonaises avec deux étages superposés et puis un élastique pour maintenir le tout. Donc un étage pour les cartes avec des cloisons qui permettent de ranger les paquets séparément et un étage pour les jetons avec l'équivalent un peu des inserts plastiques qu'on retrouve dans certains jeux mais fait maison. Donc la première idée qui m'est venue, c'était de le faire en 3D. Donc l'impression 3D, étant donné que j'ai un Fab Lab pas très loin de chez moi. Le problème, c'est que même si la boîte fait environ 10 cm sur 10 cm, ça risquait d'être un peu long à l'impression et assez coûteux parce qu'il y a beaucoup de volume. Et en plus, j'avais un petit doute sur la façon dont ça tiendrait dans le temps, parce que le but, c'est quand même de mettre un élastique assez, assez fort autour et de le balader. Donc j'avais peur que ça, ou que ça casse ou que ça se déforme. Et donc, entre-temps, j'ai découvert une autre machine du Fab Lab, qui est la découpeuse laser. Et j'ai repensé un peu le projet pour l'adapter en fait à la technologie des coupes laser. Donc c'est peut-être le moment de vous expliquer un peu le Fab Lab et la découpe laser. Mmh. Donc en fait le Fab Lab c'est ni plus ni moins qu'un atelier ou un laboratoire de fabrication ouvert. Donc c'est vraiment l'esprit open source et l'échange. Donc le but c'est de faire du prototypage et d'avoir à disposition les machines nécessaires, principalement des imprimantes 3D, des machines CNC, des laser cutters et des découpeuses laser et des découpeuses vinyles comme base. Et ensuite il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'électronique, c'est-à-dire des postes à souder, des oscilloscopes. Et puis quelques machines, des perceuses à colonnes, de l'outillage assez varié. Et surtout, des gens qui en font beaucoup, ce qui fait que ça permet vraiment d'échanger, de découvrir les projets des autres, de présenter le nôtre et puis d'avoir des retours un peu des gens qui ont un petit peu plus d'expérience que nous. Et ensuite, l'autre idée, c'est que le Fab Lab organise régulièrement des formations pour les machines. Et donc moi, en fait, j'ai eu la chance de tomber pile au moment où il y avait une session de découverte de la découpeuse laser qui était organisée. Donc en fait, pas une, mais trois sessions. Donc c'est des sessions de 4 heures qui permettent de s'initier un peu à tout ce qui est possible de faire avec une découpeuse laser. C'est-à-dire que la première séance, on teste les matériaux principalement. Donc on teste... évidemment les matériaux de base, donc le MDF et le contreplaqué, mais aussi la feutrine, le cuir, le papier, le carton, ce qui permet de découvrir pas mal de choses. La deuxième séance, elle est plus basée sur les assemblages, donc c'est un peu ce que j'ai réutilisé sur mon projet, qui est les assemblages des boîtes, globalement, avec un logiciel qui est très bien fait qui s'appelle MakerCase que j'ai utilisé aussi. Donc par exemple sur cette session là j'ai réalisé un dé décoratif, je sais pas combien il fait, 3 cm de côté, et uniquement assemblé, donc sans colle.
Oui, en fait c'est juste ces 6 faces que tu assembles avec des créneaux qui s'emboîtent,
C'est ça, des hinges, ouais, des créneaux, et en fait on prend en compte l'épaisseur du matériau, l'épaisseur du laser. On applique des corrections pour justement que les créneaux se maintiennent seuls, donc sans colle. Et donc on a fait pas mal de tests pour jouer avec ça, essayer de faire des choses solides mais démontables entre guillemets. Et la troisième session, là on teste une autre technique en fait qui consiste à découper des lignes très rapprochées pour rendre le matériau pliable, en gros. D'accord. On arrive vraiment à avoir la fluidité d'une feuille de papier avec une plaque de MDF de 3 mm d'épaisseur. Quoi.
Ça
c'est assez, c'est assez sympa, c'est assez solide. C'est-à-dire qu'on peut le faire vraiment bouger. Y a des sites donc, qui proposent par exemple des supports pour carnet, donc qui se rabattent avec un élastique, donc une espèce de petite pince pour tenir un carnet et un rabat, et donc c'est assez solide.
Ah, c'est rigolo ça.
Et donc ça permet de faire un peu le tour de tout ce qu'il y a, tout ce qui est possible de faire avec la machine. Et en fait ça m'a permis vraiment d'apprendre pas mal de choses et d'améliorer un petit peu l'idée de départ que j'avais eue pour la boîte. On peut aussi, je ne l'ai pas cité, mais on peut aussi découper du plexiglas et des matériaux plastiques transparents, sans avoir de fumée en fait. On garde vraiment la transparence et il y a des résultats qui sont vraiment, vraiment sympas.
Bah ça se fait beaucoup ça, du matériel, des jetons pour jeux en plexiglas transparent. Ouais. C'est un projet que j'avais, mais juste le prix d'une découpeuse laser est juste hors de.
Alors,
hors
c'est
de
l'autre intérêt du Fab Lab, c'est qu'on a la mise à disposition, entre guillemets, bon, faut réserver parce qu'il y en a qu'une et il y a beaucoup de monde qui veut travailler dessus, mais on a la mise à disposition d'une machine qu'on peut ni s'offrir ni héberger à la maison. Enfin, moi dans mon cas, machine qui coûte entre 10 et 15 000 euros.
Encore en entrée de gamme.
En entrée de gamme, voilà, et qui fait la taille de deux lave-vaisselle. J'ai pas la place à la maison. Donc là, en fait, j'envoie un mail à la personne qui gère le Fab Lab. Je réserve mon créneau. Et puis après, j'ai la machine pour moi sur 2, 3, 4 heures.
Avec c'est payant quand même.
Et alors, au niveau du prix, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si c'est pour produire des choses, entre guillemets, commerciales, c'est-à-dire pour revendre dans un but un peu professionnel, c'est payant. Donc on paye à l'heure, en fait. Il faut ramener son matériau, forcément, et puis on paye à l'heure. Donc, de mémoire, c'est 48 euros l'heure pour les trucs commerciaux. Je peux regarder en vitesse, je suis sur le site du Fab Lab. J'y suis, laser cutter. Alors, c'est 36 euros de l'heure pour le corporate. Tout ce qui est non-profit, donc réalisation personnelle, c'est 24 euros de l'heure. Les étudiants, 18 euros. Mais comme il y a une idée de partage et de do-it-yourself et de.
Oui, d'open source.
Comment dire, d'open source, voilà, derrière le Fab Lab. À partir du moment où le projet est partagé avec la communauté, l'utilisation est offerte, entre guillemets.
Ah, oui, d'accord.
C'est-à-dire que le Fab Lab doit être cité. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai mis à la fin de mon article de blog. La démarche qui me reste à faire, c'est de le mettre en ligne, les fichiers DXF, donc avec les profils des découpes, et puis. Des vues 3D pour l'assemblage sur Thingiverse, qui est un petit peu la bibliothèque de projets 3D et découpe laser. C'est un site qui appartient à MakerBot, qui est le fabricant un peu phare d'imprimantes 3D. Donc un site qui sert à partager les projets d'impression 3D, mais aussi d'autres projets, donc principalement de la découpe laser. Et donc une fois que ce sera sur le site, je m'engage entre guillemets à ce que ça puisse être reproduit, modifié, vendu. Disons que j'offre les plans à la communauté et j'ai plus de droit de regard à partir du moment où mon nom est cité sur la source du projet ainsi que celui du Fab Lab.
Cette histoire de dire si tu donnes ton projet à la communauté en contrepartie. On t'offre le temps d'utilisation de la machine, c'est quelque chose qui est global sur les Fab Labs. Tu sais si c'est dans leur charte ou si c'est ton Fab Lab à toi qui fonctionne comme ça?
Alors, je ne suis pas allé vérifier, mais pour dans mon, comment dire, mon esprit, c'est pour tout ce qui est Fab Lab. C'est-à-dire qu'en fait, le Fab Lab, c'est je vais pas dire une marque, mais c'est une appellation à un label qui est donné à des hackerspace, parce qu'au final on parle d'un hackerspace, qui respecte une charte au niveau du matériel disponible. Le Fab Lab, ça a été défini par le MIT, il me semble.
Oui.
Ils voulaient savoir de quoi au minimum on a besoin pour réaliser la quasi-totalité de projets do-it-yourself. Donc ils sont arrivés sur cette liste d'équipements. Et donc le Fab Lab, c'est une organisation en fait avec une certification. Et il me semble que c'est une des caractéristiques du Fab Lab d'offrir. Après, je sais qu'il y a il y a deux demi-journées par semaine d'accès libre, c'est-à-dire gratuit pour justement faire du prototypage quand on est. On n'est pas obligé de réserver, disons, c'est mieux, mais on peut utiliser la machine gratuitement pour prototyper des objets. Quoi. Ouais. C'est ce que j'ai fait la première fois.
Ouais, d'accord.
Moi, j'avais entendu un petit peu ça aussi, cette politique de partager les choses et justement d'un traitement différent pour les gens qui venaient à but commercial. Et d'ailleurs, j'étais resté sur une restriction beaucoup plus forte, enfin, du type même que si c'était à but commercial, c'était pas possible.
Enfin, c'est pour faire de la production de masse, je pense qu'ils refusent.
Alors, de toute façon, oui, la production de masse, parce que ça reste des temps de. Enfin, t'en parleras tout à l'heure, mais après, en plus, oui, si c'est pour la production de masse, il faut y accéder. Un temps qui est quand même assez important et c'est le but, c'est aussi que tout le monde puisse utiliser la machine, voir comment ça marche, donc c'est forcément c'est limité.
Oui, exactement. Et après l'autre point aussi, c'est qu'on n'est pas forcément tous capables d'utiliser la machine, donc il y a aussi directement la possibilité de demander un devis et de faire fabriquer des pièces. Là, c'est les gens qui veulent juste faire réaliser un projet sans avoir à jouer avec la machine. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est justement la machine en elle-même. Mais je sais que donc Rodolfo, la personne qui s'occupe qui est responsable du Fab Lab, reçoit régulièrement des demandes de devis et fabrique des pièces pour les gens. Les gens viennent juste les chercher, ils les payent et puis.
D'accord.
Voilà.
Ouais, parce que moi, j'avais regardé, il y en a un pas loin de chez moi. Et j'avais été totalement refroidi quand j'avais vu les prix. Je m'étais dit, mais tu vas pas aller payer 30 euros pour une heure sur une machine. Je m'étais dit, si il te faut 10 heures d'apprentissage déjà, tu vas payer 300 euros pour apprendre à te servir de la machine. Enfin, tu vois, ça m'avait totalement refroidi. Bon, là, ce que tu me dis, ça a l'air quand même vachement moins restrictif que ça, quoi.
Oui, voilà. Alors après, bon, moi, là, ici, c'était un projet que j'ai conçu, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est moi qui ai dessiné les plans et... C'était mon projet. Là, si c'est quelque chose qui vient d'Internet, là, il faudra sûrement payer l'heure de fabrication. Par contre, ça prend beaucoup moins de temps parce que forcément, on a déjà les plans. Donc, a priori, on les met dans la machine et ça sort, ouais. Ça sort comme il faut, disons. Nous, on a fait pas mal de tests avant d'avoir quelque chose de propre. Mais oui, effectivement, après, il y a quand même un petit aspect commercial, faut bien que le Fab Lab vive. En ce qui concerne la formation, moi j'ai fait donc 3 fois 4 heures de formation gratuitement. C'était donc place limitée et je crois qu'il a fait 2 sessions en tout de masterclass. Enfin 2 sessions, 2 fois 3 sessions on va dire, mais c'était gratuit. C'est-à-dire qu'on était une dizaine de personnes. Et puis chacun prend le matériau qui l'intéresse et puis fait ses tests, chacun son tour. Et puis à la fin, on fait un petit bilan. C'était en duplex avec un autre Fab Lab qui faisait la même chose. Donc à la fin, on s'est présenté un peu nos tests. C'est vraiment sympa parce qu'on rencontre des gens, on découvre des gens qui ont d'autres types de projets par rapport aux nôtres. Et y a vraiment pas mal d'expériences à partager. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, c'est de voir ce que les gens font, de ce qu'ils essayent de faire eux-mêmes, donner des infos aussi, parce que, par exemple, il y a des gens qui cherchaient des moyens de faire certaines choses. D'autres avaient déjà utilisé des outils qui permettaient de faire ces choses. Et donc, il y a un échange, et à la fin, les gens rentrent en se disant « Ah, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais c'est une super bonne idée. » On s'échange des mails, puis on reste en contact après pour faire avancer les projets, et ça c'est vraiment le côté très intéressant du Fab Lab, quoi.
Bah d'ailleurs, par exemple, j'aurais pas pensé à la découpeuse laser pour plier du bois, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc tu m'apprends quelque chose là, c'est vraiment pas une solution à laquelle j'aurais pensé. Donc c'est intéressant d'échanger, parce que justement c'est comme
le
ça
rendu
qu'on
est vraiment classe, quoi. Voilà, donc pour en revenir un peu sur la boîte. Donc j'ai repris les plans 3D que j'avais dessinés sous SketchUp pour transformer un peu la boîte de jetons et faire en sorte que les logements puissent être découpés en tranches globalement. Donc j'ai redessiné ça sur du MDF de 5 mm d'épaisseur. Parce que forcément, plus on fait des tranches épaisses, moins il y a besoin de tranches, donc moins ça prend de temps. Et quelques morceaux de 3 mm pour que ça tienne. Et puis, donc, j'ai pris mon dessin 3D, j'ai exporté les faces des tranches pour pouvoir les découper. Et je suis allé donc au Fab Lab. Alors j'ai fait plusieurs sessions. J'ai fait une première session donc de prototypage pour la boîte de cartes pour voir un peu si ça pouvait marcher, parce que j'avais un doute sur le fait que les cloisons verticales tiennent en étant tenues que par le bas. Et donc c'était d'une part très efficace, et d'autre part j'avais gravé donc sur le MDF, j'avais gravé un logo Netrunner sur le dessus, et ce qui fait un rendu qui est vraiment vraiment classe, donc ça m'avait pas mal motivé. Après j'ai eu une période de quelques mois où j'ai pas pu retourner au Fab Lab parce que j'avais pas les matériaux et j'ai un peu galéré pour trouver du MDF de 5 mm, donc j'ai laissé passer quelques temps, j'ai refait mes designs plusieurs fois, et puis donc là fin novembre il me semble, je suis allé terminer cette boîte. Donc j'avais fait une erreur sur le premier prototype dans les dimensions de la boîte de cartes, ce qui fait qu'elle ne tenait pas par-dessus la boîte de jetons, ce qui est un peu dommage dans l'idée du bento. Donc on a refait une boîte de cartes et j'en ai profité pour changer le matériau. Donc j'ai utilisé du contreplaqué ce coup-ci, qui a un aspect bois plus naturel que le MDF forcément. Ouais. Et donc bah, sans rentrer dans les détails, on a découpé les tranches, on les a assemblées sur place. J'ai fait aussi une chose que j'avais pas encore fait, donc c'est de prendre un jeton et de regarder s'il rentre dans les logements que j'avais dessinés. Parce que je l'avais que en 3D, et c'est vrai que à force de refaire, j'avais un doute sur le fait que les jetons rentrent toujours. Mais ça rentrait, donc c'était une bonne nouvelle. Et donc on a terminé la découpe des pièces. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai assemblé, donc j'ai collé là, parce que là, on peut pas faire autrement, il fallait que je colle les tranches. J'ai collé les tranches ensemble, et ben, j'ai fini d'assembler la boîte. Et le rendu me plaît beaucoup. Donc, moi, à l'audio comme ça, c'est un petit peu difficile, mais j'ai des photos sur mon blog.
On mettra les liens et les photos. Voilà. C'est moi, je suis sur le dernier article là que tu as fait, où justement il y a la photo de la boîte qui est juste à côté de la découpeuse laser. On voit même la planche de bois qui a été découpée pour faire le dessus de la boîte ou le fond. Enfin, bref. Et, voilà, et du coup, ouais, non, ça rend super bien. Enfin, c'est vraiment super. Enfin, c'est super propre. C'est ça fait envie.
Ouais. Alors moi c'est vraiment ça qui m'épate à chaque fois que j'y vais, c'est que on est donc sur une machine qui est quand même assez énorme, sur laquelle on met des plaques de MDF d'un mètre sur un mètre, et ça ressort des choses précises au dixième, qui sont vraiment très très fines. Et par exemple j'ai une des cloisons sur la boîte sur un côté qui fait moins de 2 mm je crois d'épaisseur, et c'est découpé vraiment parfaitement, c'est super propre. Enfin, il y a vraiment un côté très fin dans la découpe. Ça, c'est vraiment le côté que j'adore avec la découpe de laser, c'est qu'on peut vraiment faire des choses très très propres et très précises. Et en plus de la découpe, on peut faire de la gravure, donc ce qui permet justement de dessiner et d'apposer des logos sur les boîtes. Le rendu est vraiment vraiment top. Sur les photos, on voit qu'il y a des prototypes dans le fond, donc la photo dont tu parlais, dans le fond on voit quatre morceaux qui sont assemblés avec des traces de brûlure en fait. Ouais. Voilà, donc c'est les premiers tests qu'on fait pour vérifier la puissance du laser par rapport au matériau, parce que comme c'est du bois, bah, ça finit par brûler, et donc il y a des fumées un petit peu noires, donc il y a quelques petits réglages à faire, mais le rendu final est vraiment top. Donc ce que je disais, il faudra que j'y retourne une dernière fois pour refaire un couvercle, parce qu'il me manquait du 2 mm, donc j'ai fait un couvercle de 4 mm, mais du coup il dépasse un petit peu. Et j'en profiterai pour regraver un logo Netrunner au-dessus, et en dessous je graverai donc le logo du Fab Lab et le lien vers mon blog. Et puis le numéro de l'objet sur Thingiverse quand je l'aurai uploadé. Parce que l'idée après c'est de prendre la boîte et de l'emmener... sur des salons pour la faire découvrir entre guillemets, puis montrer aux gens que bah ils peuvent faire la même eux-mêmes. Et l'idée c'est ça aussi, c'est de
la montrer
et voilà ça, et tout le monde peut faire si moi j'ai réussi.
Du coup une fois que ton projet il est finalisé comme ça, j'imagine une boîte comme ça, ça rentre dans une plaque de 1 mètre quoi. Donc en une seule passe,
ah oui, largement,
ta boîte quoi. Ah oui, oui, non, oui, t'as plusieurs épaisseurs, quoi.
Bah, il faut du 3 mm et du 5 mm, mais...
Oui, c'est parce que pour les jetons, t'as pris du plus épais pour avoir à faire moins de plaques et gagner.
Voilà, en fait, les jetons, comme c'est des tranches, bah, j'ai fait le plus épais possible. Donc 5 mm, ça allait bien. Il faut un petit peu de 3 mm pour permettre de... Alors, si vous regardez les photos en détail, en fait, sur le blog, il y a des tranches dans les deux sens. Ouais. Donc, il y a quelques tranches de 3 mm pour rattraper la largeur, en fait. Mais globalement, il faut pas énormément de matériaux. Bon, moi, j'avais acheté des grandes plaques tout de suite parce que c'est plus pratique, quoi. Puis j'en ai pour d'autres projets. Voilà. Après, j'ai aussi ajouté une plaque de contreplaqué pour faire les extérieurs, disons, donc la boîte qui va autour. Et puis du plexiglas. Donc là, c'est peut-être un petit peu moins visible sur si ça se voit un peu sur les quelques photos pour faire les cloisons donc entre les cartes.
Et alors donc du coup ma question c'était combien de temps elle met la machine pour découper comme ça un objet de ce genre-là sur une plaque.
Alors sur le contreplaqué de 5 mm, on voit c'est bien noir, hein, c'est bien brûlé.
Ouais.
Une des pièces, ça va prendre allez, 15-20 secondes.
Ah oui.
Donc il faut 3-4 minutes peut-être pour découper l'ensemble des pièces.
Ah oui, ça va super vite.
Ah oui, c'est très rapide. Après, ça dépend des matériaux. C'est-à-dire que le plexiglas, c'est assez long. Les matériaux épais, bon, en bois, c'est assez long. Il y a certains contreplaqués qui sont pas... c'est pour ça qu'on a fait pas mal de réglages, parce que il y a des contreplaqués qui sont encore très... très jeune entre guillemets, donc très vert, donc il y a de la résine qui a tendance à...
Ouais, parce qu'en fait toutes les découpes ne font pas la même puissance de
c'est ça, il faut toujours jouer un petit peu avant d'avoir la découpe propre, mais globalement c'est rapide, hein. Et justement ça permet sur 2 heures de prototypage comme ça de faire beaucoup de tests et puis de valider le projet avant de faire les pièces.
Ouais, non, mais je pensais vraiment que c'était plus lent que ça, quoi.
Non, c'est assez rapide. Et après, il y a des matériaux, genre de la mousse ou des choses comme ça, où ça va à une vitesse... De toute façon, on est à puissance minimum, vitesse maximum, et ça coupe comme dans du beurre.
Ouais.
C'est... Non, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment une machine
que... Et du coup, est-ce que ça peut découper du... Alors, j'allais dire du papier, du carton fin...
Genre, tu peux découper du carton, tu peux... Nous on a fait des tests sur de la feutrine, donc il y a quand même un matériau assez, assez fragile. Donc ça se coupe parfaitement. Pareil, puissance minimum, vitesse maximum, et puis ça découpe sans problème. Le cuir aussi, donc la gravure sur le cuir, c'est assez classe. Mm-hmm. Et après, bon, les seules, je vais pas dire restrictions, mais les seuls problèmes, c'est quand on fait des pièces. Avec une forme un peu spéciale. Si vous regardez sur les photos, le support, en fait, la grille, c'est des V inversés. Donc, c'est pas une, la planche est pas posée sur du plat, elle est posée sur une grille globalement.
Ouais, et le problème, c'est que les plus, qui
voilà, les trois petits morceaux vont tomber dans le fond. Ça, c'est pas gênant, ça se récupère. Mais les morceaux qui sont un petit peu oblongs et qui ont une forme un peu spéciale, ils vont basculer. Et là, il y a le risque, en fait, qu'ils se fassent emporter par le laser quand ils se dévient la tête qui supporte le, alors pas le laser, mais le miroir et la lentille pour faire le focus. Quand le chariot se déplace, il risque d'emporter une machine et du coup de déplacer toute la plaque et de changer la référence, quoi. Donc là, il faut toujours surveiller un petit peu. Il y a un bouton pause, donc on fait pause, on ouvre, on enlève la pièce qui gêne, on redémarre et le laser reprend vraiment parfaitement. On voit pas du tout la zone de reprise du laser, donc faut juste être à côté et surveiller. Mais globalement c'est assez rapide et on peut découper pas mal de choses. Et le seul problème, c'est quand on fait des jetons, bah, ils tombent dans le fond, donc après faut aller les récupérer un par un, quoi.
Ouais.
Mais droit, le carton, ça se découpe. Nous, on avait fait donc des tests sur du carton, du bois, de la mousse, type tapis de souris, quoi.
Ouais.
De la feutrine. Alors, la seule restriction, c'est le métal. le métal peut se graver, c'est-à-dire qu'on met un produit en fait qui va l'oxyder avec la chaleur du laser. Mais la découpe, par contre, à cause de la montée en température locale, les plaques ont tendance à se déformer. Donc la découpe, c'est pas efficace en fait.
D'accord.
Mais bon, pour ça, il y a les CNC derrière. Il y a d'autres moyens de découper du métal. Voilà.
Bon,
et donc, c'est rien que pour l'expérience, pour l'utilisation de la machine, puis l'échange avec les gens et tout ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille, de trouver le Fab Lab ou le Hackerspace pas loin de chez soi. Ça commence à se démocratiser, à se développer pas mal, et il y a de plus en plus d'accès à ce type de machine. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas mal de projets dans les cartons qui malheureusement n'avancent pas parce que par manque de temps, et puis je m'éparpille un petit peu. Mais j'ai, rien que de savoir ce que c'est faire la machine, on pense à plein de choses et on a envie de faire plein de trucs.
Quoi. Ouais, je comprends. Ouais.
Et vraiment, les gens qui nous écoutent, faut absolument aller voir les photos pour se rendre compte, parce que c'est vrai qu'on parle, nous on a vu les photos, enfin moi là j'ai les photos pendant qu'on enregistre, donc je vois vraiment le résultat, et c'est vraiment extrêmement impressionnant, parce qu'on se rend pas forcément compte, autant les boîtes avec des séparateurs de cartes, enfin il y a plein de choses qui se font. Philibert il en vend des tout prêts de fête à assembler, donc c'est des choses qui se démocratisent et qui même s'achètent pour le grand public entre guillemets, mais là en plus avec les inserts pour les jetons etc, enfin c'est vraiment c'est vraiment super, enfin je passe le coup à Vince Mazuka qui a horreur des thermoformages. Je suis sûr que les thermoformages en découpe laser, il arrivera à être conquis.
Et puis un petit côté fait maison avec justement la couleur de la tranche du bois. On peut choisir ses matériaux, faire ses gravures. Là, je suis en train d'essayer de dessiner des choses à graver, donc un peu dans l'esprit Netrunner avec des lignes, des hexagones, des choses comme ça pour décorer un petit peu la boîte, quoi. Et non, c'est vraiment le rendu est vraiment super propre. Et, alors il faut quand même que je rajoute un point qui est que Rodolfo, donc qui s'occupe du Fab Lab, a beaucoup participé au fait que ce soit propre. C'est-à-dire que moi j'avais mes fichiers donc sous SketchUp en 3D, puis j'exportais les faces. Mais une fois donc la face exportée, il faut l'importer dans le logiciel qui gère la découpe. Malheureusement, l'import est pas forcément toujours très propre parce que le passer de la 3D au vectoriel, c'est jamais direct, et donc il y a une phase de nettoyage entre guillemets des fichiers qui a été faite par Rodolfo sur un logiciel qui s'appelle Rhino, et il est d'une efficacité redoutable pour nettoyer et refaire les choses proprement. C'est vrai, enfin il a vraiment été très efficace et très utile. Sinon j'aurais utilisé trois fois plus de matériaux avant de tomber sur les bonnes dimensions, donc que je lui rende que je le remercie en direct, parce que il a vraiment vraiment pas mal participé au fait que la boîte soit vraiment nickel, parce que c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on sort les morceaux de la machine, on les assemble et tout rentre parfaitement, c'est vraiment propre, quoi.
Ouais.
Voilà. Et donc, pour terminer, moi j'avais préparé un certain nombre d'idées en fait, do it yourself, orientées plutôt, donc J2S. Donc je sais pas si vous aviez déjà des idées de choses qui étaient possibles de faire. On a parlé de jetons tout à l'heure.
Ouais, bah tout ce qui est jetons, moi c'était surtout ça.
Hein, même des pions. Pensais,
Oui, oui.
Moi j'envisage bien l'idée d'avoir des pions, tu sais, avec une découpe vers en haut, vers en bas, et qui s'enclenchent l'un dans l'autre pour après tenir verticalement, faire des espèces de petites miniatures, quoi. Et je te posais la question en fait par rapport au carton, enfin au papier carton,
ouais.
Parce que du coup je me disais pourquoi pas même pour découper des cartes avec des formes bizarres. Genre tu veux faire des cartes rondes à la double, à la main, vas-y quoi.
Alors pour le coup, Guilin, je te spoil un épisode qu'on fera, parce que ça en fait tu peux le faire avec un budget raisonnable, parce qu'en fait moi je vais acheter une machine qui permet de faire ce genre de choses justement, et le problème c'est que le maximum c'est que tu peux découper éventuellement du carton plume ou éventuellement du carton de calendrier, et encore c'est pas sûr, mais bon après moi j'achète une machine à un prix raisonnable, enfin pour donner un ordre d'idée c'est entre 300 et 500 euros la machine de découpe qui va te permettre de découper du carton, voire du balsa pas trop épais, mais par contre dès que tu dépasses ça c'est tu peux
parce que là c'est une découpe avec une lame j'imagine,
voilà c'est, découpe en fait, physique, c'est des cutters et en fait c'est après tu règles le nombre de passages, la force etc. Et j'aurai les mêmes problématiques de tester les matériaux etc. et ce sera marrant de voir justement par rapport à la découpe laser finalement la différence entre les expériences et voir là où finalement ça c'est assez similaire.
Après, c'est sûr que pour des boîtes ou pour des inserts, c'est particulièrement idéal, quoi.
Ouais.
Bah, en tout cas, moi, le rendu est assez propre. Après, la tranche peut pas être arrondie, entre guillemets, parce que comme on coupe un matériau, le laser, il coupe droit, donc...
Ah oui.
Ouais.
Mais il y a toujours moyen, de repasser un petit coup de CNC ou d'améliorer ça, ou de faire les tranches carrément dans l'autre sens. Hein. Ça, c'est envisageable aussi. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de flexibilité sur la précision de la machine pour réussir à faire des choses des choses adaptées et propres.
Et tu disais que tu avais utilisé du MDF de 5 pour tes jetons. Pourquoi pas plus que 5
Parce qu'après j'avais peur de... Alors là où je l'ai acheté il y avait du 3, du 5, du 6 à peu près des épaisseurs beaucoup plus importantes, mais ça collait plus à la dimension de la boîte. Le 6, le problème c'est que c'était comme je disais, j'ai des tranches qui vont dans les deux directions. Il fallait que je sois précis entre guillemets au millimètre, et donc 3 et 6 ça me permettait d'être précis à 3 mm en fait. Donc le 5 et 3 ça permettait justement de compenser et d'équilibrer un peu les deux directions. C'est pour ça qu'il y a une partie là où il y a tous les jetons. Rond entre guillemets, c'est que du 5, et dans l'autre sens il y a du 5 et 3 tranches de 3 de mémoire, parce que je devais faire 9 et pas 10 mm.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, je comprends. Ouais.
Donc c'est pour ça que j'ai mélangé.
Je pensais directement je sais pas, du MDF de 10 ou de 12.
Après,
en fait, du gros, quoi.
Après le problème c'est que le MDF de 10, eh ben, le laser, le focus se fait sur la surface, et en fait, plus on va descendre, moins le focus va être propre, et donc. Il y a des risques d'avoir des problèmes de découpe, une découpe qui est moins précise.
D'accord.
Et du coup, pour avoir quelque chose de propre, j'ai préféré...
D'accord.
Je me suis dit que 5, c'était un bon compromis.
Sachant que de toute façon, tu avais le même travail d'assemblage derrière, tu aurais
juste
deux fois moins d'épaisseur.
Monde,
ouais. Voilà, c'est ça. Après, il faut juste une bonne colle et... voilà. D'accord. Donc moi j'ai listé quelques idées que j'ai eues comme ça, et puis en me baladant après sur Thingiverse, donc le site dont je parlais tout à l'heure, il y a pas mal de projets qui sont partagés liés au do-it-yourself. Donc en laser cut, les premières idées moi qui m'étaient venues, c'était bon, pouvoir découper des plateaux par exemple. On peut se faire un grand plateau de, je sais pas, des aventuriers du rail en bois,
graver. Même de graver le plateau directement.
C'est ça, de graver une grande plaque pour faire un truc un peu classe. On peut aussi forcément découper des meeples. Il y a des plans pour des meeples type Carcassonne. Sur Thingiverse, il y a peut-être 10 ou 12 plans différents pour faire des boucles d'oreilles, pour faire en gros tout ce qu'on peut trouver à Essen ou en réutilisation de meeples. Et après, il y a pas mal de puzzles et de tangrams. Si vous voyez ce que c'est
ouais.
le puzzle avec des formes géométriques, carrés, triangulaires, etc. Donc ça, pareil, comme on est sur des plaques, il suffit de les découper et le rendu est vraiment bien. J'ai trouvé aussi un memory game, donc pour enfants, mais là, l'intérêt, c'est qu'on peut le personnaliser, en fait. C'est-à-dire que le memory, c'est des tuiles carrées avec des dessins qu'on retourne, et puis il faut retourner les deux mêmes pour les enlever du plateau. Là, on peut les personnaliser en gravant des photos de ses enfants, de ses animaux, ou peu importe. Donc ça, c'est une idée qui est assez sympa aussi.
Dans le même état d'esprit, je crois qu'on vous a déjà parlé d'un jeu, enfin d'un jeu qui n'en est pas un moteur de jeu, comme on les appelle, le Peace Pack. En fait, il y a des tuiles, des jetons ronds, des pions et des dés. Et en fait, à l'origine, ce truc-là, les mecs qui l'ont inventé, ils en vendent une version qui est découpé à la découpeuse laser. Du coup, bah, on peut se le faire soi-même, quoi.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, dans le même épisode, on avait parlé d'un truc qui est encore plus chiant à faire, parce qu'en papier, ça résiste pas très bien. C'est celui avec les pyramides. Je crois que c'est...
Ah oui, Ice House.
Voilà, Ice House. Où là, d'ailleurs, où eux, il s'est fait en plexi transparent de différentes couleurs. Et typiquement, oui, c'est le genre de truc qui, en carton, rend pas forcément super bien, parce que ça résiste pas avec le temps, etc. Alors que on découpe laser sur du plexi ou genre de matériaux un peu transparent, c'est tout de suite super sympa. Et
ouais, puis, par contre, tu pourras pas faire vraiment des pyramides qui s'empilent, quoi. Tu seras obligé de faire des espèces de... Enfin, je vois pas trop...
Bah si, sur les bords, c'est juste qu'au lieu de faire des carrés, que ce sera un petit peu... aussi, ça doit être faisable.
Ouais, ouais.
Ou juste en les coulant, tout simplement.
Mais je veux dire, ton matériau, il va avoir quelle épaisseur, tu vois, il va être super épais, quoi.
Bah, tu peux découper du matériau super fin. Après, le seul risque, c'est que si c'est trop fin, ça risque, c'est plus fragile, mais je pense qu'a priori, il n'y a pas de... Enfin, en même temps, Baptiste saura mieux répondre que moi, en fait, parce que moi, j'ai jamais découpé dans un Fab Lab, mais je pense que tu peux... Et puis sinon, au pire, tu fais une version géante, comme ça, tu peux faire des grosses pièces qui résistent. Il y a toujours une solution.
C'est ce que je disais tout à l'heure, le mieux, quand on a une idée comme ça, c'est d'aller sur place et de demander. Parce que souvent, c'est quand j'ai eu l'idée de la boîte avant de faire les formations, j'avais pas trop d'idées de ce qui était possible de faire. Une fois que j'ai fait la formation, j'avais beaucoup plus d'informations sur ce qui était possible de faire, et ça a tout de suite aiguillé mes choix sur ça, je vais plutôt le faire comme ça. C'est vraiment intéressant d'avoir juste vu la machine, même si on n'a rien, même si on fait pas une formation, on fabrique soi-même quelque chose, rien que de la voir tourner, de voir les gens faire leur projet, ça te donne vraiment tout de suite des idées sur ce qui est possible de faire, et puis sur les différentes possibilités qu'offre la machine.
Bah d'ailleurs, je vois dans la liste des choses que t'avais mis les réglettes de maintien pour les cubes Eclipse. Bah typiquement c'est ça, hein. Enfin, j'en ai déjà vu, c'est des petites plaques de plastique transparent, qui est finalement pas très épais. Et avec ce genre de matériaux, tu peux faire des ice house. Après, c'est faire la taille qui va bien, mais...
Ouais, c'est plus un problème d'assemblage.
Ouais, je pense que c'est plus là où tu t'embêtes, parce qu'il faut effectivement faire une découpe avec un certain angle, mais j'imagine qu'il y a plein de techniques pour faire ça.
Ouais, ça doit être faisable. Pour la réglette de maintien des cubes de Eclipse, j'ai trouvé ça sur Finger, je connais pas le jeu Eclipse, mais j'ai trouvé ça, et je me suis dit que ça pourrait très bien s'adapter à un autre jeu auquel je joue, qui est Megawatt.
Oui, tout à fait.
Tous les matériaux en bas du plateau qui bougent toujours un petit peu. Et puis dans ma liste, j'avais aussi il y a pas mal de porte-cartes, donc des un peu comme les supports de pièces au Scrabble.
Ouais.
Donc pour mettre des cartes de pareil, encore celui que j'ai trouvé, c'était les aventuriers du rail, je crois, le logo était gravé sur la plaque pour mettre les 5 cartes de pioche et les attraper plus facilement. Ça, c'est un petit ajout qui est pas mal dans un jeu où carrément un plateau de jeu pour Dominion, donc avec des zones déjà définies pour positionner les cartes correctement.
Alors celui-là, c'est pareil, allez le voir, parce que en fait au début je me suis dit qu'est-ce que c'est, quand j'ai vu la photo en fait j'ai compris, et c'est vraiment sympa. Bon, après ça prend un peu de place,
oui, voilà.
Mais bon, en même temps ça peut s'assembler, désassembler, puisque c'est des c'est des bouts de bois qui s'assemblent par des assemblages classiques en bois. Et non, franchement, le résultat donne envie. Enfin, c'est assez. J'aurais pas pensé, et je trouve ça très sympa.
Des trucs pour compter les points qu'il faudrait faire, tu sais, avec une roue comme à King of Tokyo. Un truc générique, tu peux utiliser dans tous tes jeux do it yourself.
Effectivement, oui. Oui, il y a plein de choses à faire. Après, le problème, c'est qu'on empile les idées et on n'empile pas le temps, donc c'est toujours un petit peu compliqué. J'avais noté aussi des supports de peinture, parce que je fais un petit peu de peinture de figurines, et pour ranger les pots, ils ont 2-3 idées qui sont vraiment pas mal. Voilà, puis après j'ai mis quelques idées en print 3D aussi de choses qu'on trouve. Donc là on va forcément plus se rapprocher de pions, de jetons et de figurines entre guillemets de jeux. Donc les gens avaient refait des marqueurs de points pour Race for the Galaxy, des meeples ou carrément un distributeur de tuiles en impression 3D pour Carcassonne. Et puis des jetons énergie donc, qui ont la forme de l'éclair vert pour King of Tokyo. Qui avait un rendu sympa.
Mais ça, pour le coup, ça pourrait être fait à la découpeuse, ça.
Et ça peut aussi être fait à la découpeuse, ouais. Les jetons énergie. Faut trouver du plexi vert, mais après.
Ouais, ou du bois, et puis tu le peins, quoi.
Oui, voilà, après, faut passer un petit coup de.
Tiens, d'ailleurs, si ton bois, il est peint, il peut passer à la découpeuse a posteriori.
Ouais, alors ce que Rodolfo me disait, parce que j'avais posé la question sur certains matériaux plastiques, le plexi, il a pas eu de problème. En fait, il faut savoir que dans la machine, donc il y a une aspiration pour les fumées. Il évite les matériaux qui sont toxiques. Donc le plexiglas, il n'y a pas de problème. Moi, le matériau que j'avais ramené pour faire les cloisons, c'était pas du plexiglas en tant que tel. Enfin, ça m'avait été vendu comme du plexiglas, mais ça devait pas en être. C'était du verre synthétique, en fait, qui avait tendance à blanchir un petit peu à l'endroit de la découpe, faire une espèce de poussière, en fait, qui... D'une part, saline la machine, puis après, au niveau des fumées qu'on respire, je suis pas sûr que ce soit super écologique et super bon pour la santé. Mais à partir du moment où le matériau, si c'est du plexiglas teinté dans la masse, orange, rouge, pour citer les exemples de ce qu'il y avait au Fab Lab, il n'y a pas de problème en fait.
Ah, mais je pensais à du bois, tu sais, que tu aurais peint toi. Tu vois, t'achètes ta plaque de contreplaqué, tu la peins et après tu vas la découper.
Mais il y a surtout que le bois, il est toujours marqué en noir sur les découpes ou...
Ouais, mais sur le bord, c'est pas grave.
Sur le bord, est toujours noir, ouais.
Donc c'est plus ça, en fait, si par exemple tu fais une boîte, c'est ça que... Après, il y a des gens qui trouvent l'esthétique jolie, d'autres qui l'aiment pas. Mais quand t'as une boîte découpée au laser, effectivement, les créneaux, t'as toujours des zébrures noires sur les tranches.
C'est ça. Après, j'aime bien parce que... Bon, après, un petit coup de papier... papier de verre et la tranche redevient couleur bois. Mais moi j'aime bien parce que ça donne un effet justement fait maison.
Moi j'ai un copain qui s'est fait un Space Hulk miniature, tout à la découpeuse laser. Alors après c'est un gars qui fait de la peinture de figurines aussi, donc tu sais il a fait des petites tuiles par exemple pour les couloirs, et donc sur la tuile elle est découpée en forme carrée avec les coins coupés, et gravé le dessin par exemple d'une plaque d'égout, et puis tu vois après il est venu avec la peinture de miniature tout repeindre et tout, faire un truc c'est absolument magnifique ce qu'il a fait.
Un petit effet de relief.
Ouais, c'est énorme quoi, avec des figurines en, je sais pas, en 18 mm là, c'est génialissime.
Ouais, il y a moyen de faire plein de trucs. Et c'est vrai que la gravure de surface sur le bois, par exemple moi juste le petit logo Netrunner qui est sur le dessus de ma boîte, il y a un effet de relief en fait, parce qu'on creuse forcément comme on grave le bois. Ouais. Et il y a certains bois, enfin certains matériaux, où on peut vraiment attaquer fort avec le laser, donc creuser profondément, ça donne vraiment un effet qui a un super rendu en fait. C'est pour ça que je vais retourner faire le logo sur, sur la boîte que j'ai faite.
Bon, voilà, bref,
la dernière petite idée que j'avais eue, c'était des badges ou des cartes de visite. Pour les assos ou les salons, typiquement pour si je vais à SN, chacun a fait son badge avec son nom. Il y a moyen d'avoir des trucs assez classe.
On va se faire subventionner des formations en Fab Lab par Proxy Jeux.
Exactement.
On va tenter ça.
Alors pour les tokens, par exemple, je reprends l'idée des jetons énergie pour King of Tokyo. Comme c'est des tout petites choses, souvent les Fab Labs gardent les chutes des plaques en fait qui ont été découpées. Et donc des tokens, il y a moyen d'aller en découper partout dans les petits morceaux qui restent. Et donc de faire de la récup de matériaux et donc de ne pas payer ces matériaux.
Ça sous-entend qu'il faut avoir gardé le patron de la découpe d'origine pour savoir où il reste de la matière.
Non, il suffit en fait de... positionner sa plaque. En fait, sur le laser, y a un laser de positionnement. C'est-à-dire que la machine, donc il y a un laser, le laser qui fait la découpe, qui est derrière. Il y a un système de miroir qui renvoie le rayon vers la tête de découpe, avec une lentille pour faire le focus. Il y a un deuxième petit laser rouge qui sert justement à pointer l'endroit où on va découper. Donc on positionne sa plaque, on appuie sur le bouton origine, donc on fait la référence, et après on lance la découpe, et ça va faire une pièce, on la décale à un autre endroit où il y a de la place, et donc il y a moyen de faire des petits tests comme ça, dans des chutes.
Je comprends. Ouais. Ouais, ça aussi, donc, c'est bon à savoir. Ouais.
Ouais, c'est ça, et c'est vraiment en jouant un petit peu avec la machine où on se rend compte
des contraintes des facilités que ça offre, quoi.
C'est ça, ouais.
Super.
Moi, c'est vraiment une très bonne expérience que je conseille à tout le monde.
Ouais, faut que je le tente un jour.
Mais en tout cas, moi, ça m'avait vraiment donné envie à lire tes articles. Et plus encore là, après notre petite heure de discussion. Vraiment, c'est... le résultat, il est vraiment bluffant. C'est vrai que juste une boîte, on est habitué. Philibert, ils en vendent, et d'autres boutiques. C'est The Game Broken, je crois, qui fait ça.
Broken Token.
Peut-être. Je sais qu'il y a deux boîtes, je sais plus. Non. On mettra les liens si on les retrouve. Mais c'est vrai que les boîtes, c'est des choses qu'on est habitué, qu'on commence à voir pas mal. Mais là, l'insert, c'est le petit truc en plus. Et puis, comme tu dis, c'est le plaisir d'avoir fait soi-même, d'avoir échangé avec des gens, de trouver d'autres idées pour faire plein d'autres projets.
Ouais, puis le format bento vraiment, est plutôt original, je trouve.
Ah, mais en plus, elle est minuscule, la boîte, du coup, parce que...
Ouais, elle fait 10 sur 10. Et puis, 3 cm de hauteur pour la partie jeton. Et puis, la partie carte, il y a juste une carte qui tient en hauteur. Donc,
elle doit presque rentrer dans la boîte de base d'Android Netrunner. Hein.
Quasiment. Ouais, en fait, au départ, mon idée c'était ça, c'était de faire deux bacs qui rentrent dans la zone qui est au milieu de l'insert en carton de la boîte Netrunner. Et puis, en fait, ça dépasse un petit peu parce que si on met les cartes verticales, elles rentrent pas parfaitement.
Ouais.
Du coup, j'étais parti un peu sur ces dimensions-là. Après, ce que j'ai fait pour le dimensionnement, pour essayer de faire le plus petit possible, j'ai mesuré les paquets de cartes pour voir quelle surface j'avais en les mettant sur la tranche. Et j'ai essayé de faire tenir les jetons sur cette surface-là, quoi.
Ouais.
Ça rentrait pas parfaitement, donc j'ai dû élargir un petit peu, et c'est cette correction que j'ai oublié de faire sur le premier proto qui fait que la boîte était trop petite. Mais globalement, c'est difficile de garder de la place, d'enlever de la place en gardant les zones pour mettre les doigts pour sortir les jetons, quoi.
Et il te manque la poignée.
Pardon ?
Mais non, il y a l'élastique.
Il manque la poignée, je dis moi. Ouais, moi j'avais l'idée de faire à mon père à l'époque, parce que mon père il a la scie à ruban et tout ce qu'il faut pour travailler le bois de façon plus artisanale, on va dire, plus traditionnelle, de lui faire faire une grande boîte genre format valise, tu vois, pour stocker plein de jeux. Et mon idée c'était d'avoir la grosse boîte où t'as vraiment plein de trucs, et qu'il y ait une partie de cette grosse boîte qui soit une boîte un peu plus moyenne où t'as un peu moins de jeux. Et là-dedans, encore une boîte plus petite, genre format d'une boîte de Carcassonne, tu vois, avec la petite poignée, et juste t'enlèves ça quand tu veux juste aller te faire une soirée jeu avec quelques jeux de cartes et pas grand-chose. Bon, je l'ai jamais fait parce qu'il faut concevoir les plans, et pour ça, il faut savoir qu'est-ce que tu vas mettre dedans comme jeu. Et comme moi, je fabrique 3 jeux par mois, il n'y a pas moyen, quoi. Mais dans l'idée, ça serait carrément un truc tout à fait faisable, sous réserve de prendre le temps de bien concevoir l'objet, quoi. C'est ça le truc, quoi.
Bah c'est ça, moi j'ai pas mal de temps pour y réfléchir, pour le dessiner, j'ai pas vraiment pris mon temps, puis pour le re-réfléchir une fois que j'avais fait les premières masterclass, mais une fois bien, enfin, qu'on a pris un petit peu de recul sur le dessin et qu'on sait vers où on veut aller, la machine elle le permet vraiment, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a eu l'idée, on est quasiment certain qu'on va réussir un résultat exploitable.
Super.
Donc il faut se lancer.
Ouais, il faut se lancer. Alors, c'est une belle conclusion. Je pense que de toute façon, il faut qu'on conclue parce que là, oui, pour le coup, on va vraiment avoir fait une heure. Quoi.
De toute façon, c'est un numéro hors série qui sera voilà, peut-être voilà, en dehors des chroniques habituelles puisque là, on est au moins à une heure. Donc comparé aux 35 minutes habituelles, on va se faire taper sur les doigts. Mais en même temps, c'est pour le bien de tous et pour montrer
ouais,
que finalement,
sympa, ouais,
eh ben, c'est accessible à partir du moment où on est prêt à y consacrer un petit peu de temps. Et donc, bah ouais, je pense que c'est le bon mot pour conclure. Du coup, bah, merci Baptiste d'avoir partagé bah, ton expérience avec nous, de nous avoir
donné envie.
Et puis on essaiera de voir si on arrive à s'y mettre nous aussi. Et puis voilà.
Ouais, merci de nous avoir partagé ton expérience et pas merci de nous avoir donné envie.
Trop de choses à faire, mais c'est bien. C'est bien.
Ouais, c'est ça le problème aussi.
Tiens,
faut rationaliser un petit peu.
Pardon.
Vas-y,
du coup,
vas-y.
Pour les petites news et dans la série des trop de choses à faire, pour info, je vous annonce que je me suis lancé dans le développement d'un logiciel dédié à faciliter la vie des gens qui font du print and play. Et la première étape, c'est ouvrir les PDF, en extraire les cartes, les découper, les réorganiser différemment, rajouter des marques de découpe, etc. Et donc, ça a bien commencé. Je pense qu'on aura une première version utilisable d'ici la fin du mois. Voilà, c'était le petit teasing du début de l'année, quoi.
Eh ben, c'est parfait. Et donc, sur ces mots, on va conclure par... par notre traditionnel et maintenant que vous savez quoi faire de vos dix doigts,
jouez bien,
jouez bien,
jouez bien.
Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que le sujet vous a plu.
Ah, c'est avec ça, c'est avec ça, vous ne vous équipez pas une découpeuse,
oui, aussi,
laser,
j'aime le laser.
Pour découper des ronds, c'est quand même pratique.
Mais non, un caméo, c'est comme ça que ça s'appelle,
un robot de découpe. Oui, caméo, c'est une des marques.
Bah, c'est pas de la découpe laser alors.
Pas un truc dans un film, un
caméo.
Ah
non, mais c'est pas la coupe laser, c'est la coupe avec.
Oui, non, parle pas à moi, parle aux gens.
Ouais. Olivier, t'as tout le temps de le voir le reste du temps.
C'est ça. Donc parle parce que toi, comme Alexis, tu t'es doté d'un caméo.
Oui, j'ai acheté la caméo et moi c'est une petite lame qui se déplace sur le papier. C'est un peu comme une imprimante avec une lame à la place du jet d'encre.
C'est une imprimante 3D.
C'est vraiment très,
oui,
bien, ouais.
Et en plus,
bah, regarde, c'est
ce qui... pour couper les ronds.
Où ça?
Je pense que tu l'as pas découpé au cutter, le logo Proxy.
Non, j'ai abandonné le scalpel depuis que j'ai ça. Ouais.
Ça veut dire qu'Alexis aussi a abandonné le scalpel.
Ouais, mais c'est infernal. Il poste plein de trucs. Il joue avec sa cameuse, c'est incroyable.
Ça coûte combien un truc comme ça?
Pas très cher.
Ça, moi, j'ai pas la découpe laser. La mienne, c'est 200.
Bon, ça va, oui, ça reste une tuerie par rapport à une imprimante.
Bah, après, ça dépend. Enfin, c'est comme on en parlait,
oui,
il y a trois semaines, garbage in, garbage out. Quoi. Soit tu peux refaire des trucs vachement sympas, soit. Alors pour toi, en termes de prototypage, oui, c'est une autre chose.
Potentiel de trucs, puis de gain de temps.
Ça marchera pas pour tes petites figurines en bois.
Non, mais par contre, pour faire des jetons ronds.
Non, mais fallait, ouais.
Bah oui, c'est pour le rond, exactement.
En plus, tu peux faire des
jetons
à la taille et à l'épaisseur, en fait, bah, ce que tu mets dedans, en fait. Ça... Parce que c'est quoi, 3 mm où tu peux. Où c'est...
Ça va jusqu'à 300 grammes de papier.
Ah ouais, mais nous,
pour
on
l'épaisseur
pas
du papier et les.
300 grammes.
Ça fait une bonne grosse feuille.
C'est des trucs un peu cartonnés, mais.
Ouais.
Comme ton.
Oui, en général, imprime-nous sur du 80 grammes, hein, Olivier.
Ouais.
Non, mais ça veut dire que le carton ça marche pas.
Bah,
marche pas.
Non, faudrait une machine plus. Il y a des machines industrielles qui font ça.
D'accord, maintenant
bah
tu te fais un truc un peu plus.
Ça sera 1000 quelque chose.
Le laser.
Ouais, mais pour des protos au départ, t'as pas forcément besoin de ça.
Mais le laser de la saison 7.
Eh, ça veut dire que je pourrais m'acheter ça et plus avoir besoin de co-auteur.
Je crois pas.
Salut Nicolas, c'est moi.
C'est enregistré.
Ça va,
c'est enregistré.
Oui, mais il écoute pas.
Non, mais c'est pas grave, je vais pouvoir. J'ai son email, je vais pouvoir lui mettre juste un petit MP3, tu vois.
Pas de problème. Je t'en parlerai demain.
Voilà, donc, la caméo, on pourra. Éventuellement, tu pourras nous en parler. Un jour.
Un jour.
Bon.
Mais c'est déjà dans la chronique, en fait.
Voilà.
Il parle de caméo ou il découpe laser?
J'en sais rien.
Vous êtes en train de dire que vous ne l'avez pas écouté?
Mais non, parce qu'il a eu beaucoup de retard.
En fait, ils ont posté des trucs un peu à l'arrache, ouais. Donc, on n'a pas une semaine pour écouter toutes les chroniques, donc c'est un peu compliqué. Il y en a un paquet quand même. Ils sont sympas, hein, les gars.
Ils ont bossé.
Ouais, ouais.
Ils
non,
bossent
mais justement,
bien.
Ils bossent bien, mais après, il faut trouver du temps pour écouter déjà avant d'enregistrer l'épisode. Parce qu'après, de toute façon, on réécoute tout quand, bah, au montage ou moi quand je fais les billets. Donc,
t'écoutes quand même.
Ouais, je suis obligé. Ouais. Je marque comme
les auditeurs qui écoutent le podcast en fait.
Et je marque comme un con tout seul à me rappeler les blagues qu'on a faites. En
c'est
temps.
Ça.
C'est une catastrophe.
Les blagues de dans 3 semaines.
je pense que.
je vais couper. Alors, t'as, je vais couper, ça veut dire. Ouais, oh, tu parles. Éventuellement, on mettra
dans le. Il y a beaucoup de mots gigamiques à envoyer.
Oui, alors, on précise quand même qu'on a reçu des plaintes. Non, Gigami qui est toujours là.
Il n'y a pas de problème.
On a eu Mathilde au téléphone, tout va bien. Bon, Gigami.
Il fait beau. Il pleut, mais ça t'a.
Non, il fait jamais beau là-haut, mais ouais.
Ils annoncent de la pluie, mais tout va bien. Bref, voilà.
On a deux chroniqueurs outrés sur le chat. Parce qu'ils viennent d'apprendre que vous n'écoutiez pas leur chronique.
C'est pas vrai.
Non, mais attends, il l'a publié quand sa chronique?
Patchwork, c'était il y a un mois.
Non, Patchwork, je l'ai écouté. C'est un peu long.
C'est un très bon résumé. C'était bon. Hein,
non,
c'est un peu long.
Non, c'est bien, mais ça aurait pu être plus synthétique en 5-7 minutes. Mais c'est bien. Ça donne envie de jouer.
Ah,
ça dure 9 minutes et
quelques. Ah, ouais. Tu chipotes, je pensais que c'est un 55 aussi. Il pouvait faire en 10.
Une émission de 5 heures, je trouve que 9 minutes, c'est un peu trop long. Ça.
Voilà. Alors, pour pas faire une émission de 5 heures.
Stéphane, il fait un peu les questions-réponses, mais c'est le problème, c'est qu'il est tout seul à parler en fait. C'est pas que c'est inintéressant et tout, mais c'est que t'as qu'une seule voix pendant 9 minutes pour présenter un jeu. Et il n'y a pas l'interactivité que t'as quand nous on le fait.
Ouais, mais c'est pareil. Schizophrène, par exemple.
Voilà.
C'est ça. Nous, on a.
Ça peut être assez compliqué chez nous.
Ouais, c'est ça. Bon, ouais. Voilà. Ça, c'était.
C'est du n'importe quoi.
Le do it yourself.
Le jeu de rôle dans tout ça.
Le jeu de rôle la semaine prochaine.
Oh.
Et la semaine prochaine.
Encore une semaine prochaine.
La semaine prochaine, ça sera peut-être un peu plus long qu'une heure. Voilà, vous êtes prévenus. Là, c'était un peu plus court, mais au moins, c'est un don complètement consacré au do it yourself. Et puis
ça pète le magazine quand même quoi.
Non, bah non, même. Parce que Cats, c'est Cats pour les jeux de rôle.
La mascarade.
Et bah c'est voilà, si vous avez envie d'écouter de savoir ce que les chats pensent de nous et comment ils vont dominer le monde dans pas longtemps.
Et c'est encore une super chronique qui donne encore envie de voir un jeu de plus sur les chats.
C'est la semaine prochaine et en attendant,
jouez bien. Voilà.
Je suis Olivier, je suis avec Jérémy, Fred et...
Putain, la femme qui vit avec toi, elle s'appelle Eve, mon chéri.
Ah oui, c'est ça. Ah, c'est toi. C'est Eve. Et
c'est
nous allons vous parler de Do It Yourself.
Je vais encore faire cette intro.
C'est pas possible, ça.